Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin.
Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Weekly, le numéro 153. Aujourd'hui, nous allons parler de comics, quelle surprise, avec les reviews donc de DC, mais surtout énormément de Marvel, une ribambelle de Marvel cette semaine, et aussi de l'indé, et côté indé, pas mal de bonnes surprises, avec des nouvelles franchises, ainsi que des valeurs sûres. Eh bien, on est parti donc pour une petite heure de review. Je suis Monsieur Nebony, et vous écoutez Comics Weekly. Avec moi ce soir, il a mis sa plus belle chemise, Flo.
Non, je suis tout nu. Et bonsoir.
Ah, fallait pas le dire. Fallait laisser les gens fantasmer sur tes chemises. Mais enfin bon, c'est pas grave. Le chéri de ces dames également, comme d'habitude, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Oh, quelle surprise, quelle présentation. Et puis, le taulier, notre Johnny Hallyday.
Oh, enculé.
Steve est avec nous.
Oui, et moi aussi, je suis nu, donc Florent, si tu veux faire des choses après l'émission.
Nous verrons ça.
Rendez-vous sur Chatroulette.
Quel jeu d'acteur. Tiens, c'est là où tu as croisé... Non, on va pas rentrer dans les détails. Bref, nous allons commencer tout de suite par DC avec cette review de Justice League of America, et c'est moi qui m'y colle, d'ailleurs ça tombe très bien, quelle transition extraordinaire. Au scénario, nous retrouvons donc Geoff Johns, au dessin Doug Mankey. D'ailleurs au scénario, Geoff Johns est accompagné de Jeff Lemire. Il y a un paquet d'encreurs, donc je ne vais pas les citer, mais on y pense très fort, ils sont avec nous. Nous démarrons sur cet incident diplomatique international incroyable qui se déroule entre la Justice League et la Justice League of America. Je crois qu'on peut le dire, c'est plus un gros spoil. Superman a été contrôlé par un ennemi, il a commis un acte irréparable. On va pas dire envers qui, pour ceux qui n'auraient pas encore lu la première partie, mais enfin voilà, la situation est un petit peu cocasse. Shazam s'était retrouvé au milieu de tout ça, ils sont au Kandak. Donc non seulement on a un incident diplomatique, mais en plus on a maintenant un mort. Et donc la situation est pour le moins compliquée. La situation va vite être réglée, d'ailleurs ça m'a un petit peu étonné finalement, point de grosse bataille, on passe tout de suite plutôt à un épisode où Superman se pose des questions, il a des remords sur ce qu'il vient de faire, alors on lui dit oui mais c'est pas de ta faute, donc notamment Batman, Wonder Woman ont toute une discussion à ce propos, ils sont pas tellement d'accord d'ailleurs, Superman qui est transporté à l'Argus, qui veut le garder sous surveillance. J'ai trouvé ça un petit peu facile, quoi. Il y avait quand même certaines facilités scénaristiques. On a également Wonder Woman qui enquête sur Pandora, qui essaye d'en savoir un peu plus sur ce personnage, qu'elle juge responsable de ce qui s'est passé, et en effet, de toute façon, elle n'est pas étrangère à tout ça. Et puis, elle va faire appel à d'autres personnes, de toute façon qu'on attend dans ce crossover, alors je vais pas les nommer, mais c'est assez simple de deviner. On termine l'épisode sur un cliffhanger, ma foi, assez intrigant. On sent que ça y est, on va enfin attaquer les choses sérieuses, parce que moi je me disais, c'est bien beau là, mais jusque là, on n'est pas vraiment rentré dans le vif du sujet, enfin en tout cas dans ce que je voulais savoir, on n'avait pas encore répondu aux questions qu'on se posait. Donc là, on va vraiment attaquer la partie la plus intéressante, à mon avis. Bien, qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cet épisode, déjà, du point de vue du résumé, messieurs?
Oh non, t'as tout dit, là, je pense, hein.
Moi, il y a juste un truc qui me chiffonne, c'est quelle est la cote de Superman?
À l'Argus.
La cote.
Voilà.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
Oh là 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 là, moi
il
je
doit
dis
valoir
monsieur.
cher. Il doit valoir
Ouais,
cher.
je pense qu'on peut clôturer là-dessus cette review, hein, carrément.
Avec cette vanne, c'est un gros bail, bien sûr.
Bah alors justement, est-ce que c'est un gros bail cet épisode? Parce que j'étais assez mitigé sur la première partie. Est-ce que vous êtes aussi mitigé sur celle-là? D'abord, est-ce que vous êtes mitigé tout court, ou est-ce que vous avez adoré
Moi, j'avais bien aimé le premier épisode de Trinity War, parce que ouais. Je suis pas un grand, comme vous le savez, je suis pas un grand habitué des crossovers, donc bon, je suis assez frais à ce niveau-là. Et là, j'ai bien aimé parce que ça continue finalement assez bien. Geoff Jones et Jeff Lemire évitent l'écueil de la grosse baston. Qui continue jusqu'à ce que ça s'arrête et qu'on comprenne qu'il y a un problème. Il évite cet écueil-là pour partir plutôt dans une enquête. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce numéro, c'est que on ne voit pas Pandora. C'est-à-dire que l'idée de Pandora et l'idée scénaristique de Pandora que je trouve bonne est là et c'est très bien, mais le personnage que je trouve vraiment chiant n'est pas là et donc c'est très bien. Et on voit l'apparition de pas mal de persos que je trouve assez cool, notamment un personnage lié à l'univers de Wonder Woman, qu'on voit enfin dans une autre série que Wonder Woman. Donc on sent un petit peu qu'elle sort, les personnages de Wonder Woman sortent un petit peu de leur série, ce qui est bien vu qu'elle est d'habitude un peu de son côté. Donc ça m'a plu, et puis bon, il y a aussi le côté cohérent, je trouve que le précédent vraiment s'attardait sur le point de vue de la JLA. Ici plus enfin de la Justice League, enfin je sais pas, je trouve ça assez clair dans la progression du crossover. Le prochain numéro ça sera dans Justice League Dark et je trouve ça assez cohérent. Voilà, scénaristiquement je trouve que ça progresse bien.
Moi je vais ajouter quand même que vu le nombre d'encreurs qu'il y a sur cet épisode, comme tu l'as dit, hein, tu les as pas tous cités parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Ah bah j'en ai cité aucun, donc comme ça.
Ça vous permettra de voir ce qu'est le travail de l'ancrage, parce que quand on débute dans le comics, on se rend pas forcément compte de l'importance de l'ancrage.
Et oui.
Mais là, il y a tellement d'encreurs. Regardez par exemple le visage de Wonder Woman, suivant les pages, n'est pas du tout le même et il est plus ou moins réussi en fonction de l'ancrage. Et justement, ça permettra peut-être aux gens qui connaissent pas forcément le travail dans le comics en termes de dessin, de partage des tâches, ça permettra peut-être de s'en rendre compte. Parce qu'il y a franchement des moments, la Wonder Woman, elle est juste affreuse. T'as envie de lui mettre des coups de savate pour lui dire « mais je vais peut-être te remettre la tête droite, quoi ».
Au point qu'on se demande si c'est à chaque fois, enfin si c'est Doug Mankey qui parfois est un peu moins en forme ou si c'est ses encreurs qui, enfin voilà. Enfin, on a l'habitude avec Doug Mankey puisque je pense que c'est un peu des deux, mais Doug Mankey, de toute manière, se fait toujours ancrer par 5 personnes, dont lui-même. C'était le cas sur Green Lantern et c'est les mêmes qui l'ancrent là. Et c'est vrai que c'est son gros point faible, hein, parce qu'il y a des pages qui sont réussies, il y a des pages avec un ancrage très net et très propre que je trouve assez réussi, et d'autres avec un ancrage épais, à la fois épais mais et baveux qui sont vraiment assez moches quoi.
Le personnage le plus inconstant pardon je m'étrangle le personnage le plus inconstant c'est Wonder Woman en fait.
Ah oui,
c'est
très nettement,
c'est très choquant sur ce numéro.
Parfois elle a l'air d'un homme un peu
Elle a pas du tout le même nez en fonction de comment elle est ancrée et là justement vous pourrez vous rendre compte de l'importance d'avoir un ancreur ou d'avoir justement un ancreur constant sur le numéro et pas avoir différents ancreurs sur le même numéro.
Moi, il y a carrément des personnages qui ont des têtes comme s'ils étaient dessinés par Ward Chaykin, je trouve, par moment. Avec l'ancrage.
Mais il suffit,
surtout
par exemple,
au début, quoi.
Un exemple simple pour voir la différence d'ancrage, il suffit de regarder Wonder Woman au moment où elle va enquêter de son côté, et la page juste avant où elle discute avec Batman, on voit la différence vraiment de l'ancrage, ce que ça peut apporter. Pour certains qui ne se rendent pas forcément compte de quel travail c'est l'encreur. Et l'encreur ne fait pas que repasser des traits.
Moi, c'est surtout sur les premières pages que ça m'a choqué, au fait. Il y a vraiment des pages où c'est très, très, très baveux, justement.
Ouais, on a
comme
un ancrage plus épais ou un ancrage plus fin en fonction de qui encre. Et après, bon, pour revenir très vite sur l'histoire, moi, je trouve bien construit. J'étais beaucoup plus pris par ce deuxième épisode que par le premier. Le premier, c'était ni plus ni moins que de la grosse baston. Et là, on arrête très vite la baston pour passer à justement de l'enquête et les personnages essaient de comprendre ce qui leur arrive et qui essaient de réagir aux différentes situations. J'ai franchement beaucoup plus apprécié ce deuxième numéro de Trinity War que le premier.
Oui, pareil. Moi, ça m'a un peu plus... je suis un peu plus rentré dedans. Et puis, je sens que ça y est, là, ça démarre vraiment, comme dirait Sam, et qu'on va enfin avoir des réponses intéressantes. Enfin, intéressantes, je sais pas, mais en tout cas, des réponses aux questions intéressantes qu'on pouvait se poser auparavant. Bruno, tu veux dire quelque chose peut-être ?
Ouais, je vais pas revenir sur la partie graphique parce que j'ai trouvé moi aussi que c'était quand même beaucoup moins bon que ce qu'on a eu sur le premier numéro et que Mankey était pas très en forme. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas aidé par ses encreurs.
Voilà, après, je pense que c'est pas qu'il n'est pas en forme, c'est qu'il, simplement qu'il n'a il a pas forcément
oui,
les bons
même,
encreurs.
Oui, mais même au niveau de la composition des pages, au niveau de ce qu'on a, je trouve que c'est quand même pas du grand Doug Mankey. Je l'ai trouvé plus en forme ailleurs.
Bah, il a eu beaucoup de personnages à dessiner sur les premières pages, il a peut-être rushé les dernières.
Ouais. Après, au niveau du scénar, moi je suis à l'inverse de vous, moi j'ai beaucoup préféré, enfin, j'ai bien aimé le premier numéro, celui-là m'a un petit peu moins plu. Je l'ai trouvé un petit peu lent, j'ai trouvé ça, je trouve qu'il y avait incohérences au niveau du comportement des personnages et j'étais un petit peu déçu et surtout que le cliff qu'on a il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, il manque clairement d'introduction. J'ai préféré la narration dans le premier numéro qui était vraiment avec Xanadu, justement je trouvais que c'était assez inventif et là j'étais un peu déçu, donc pour moi le premier numéro était quand même bien meilleur. Bien sûr j'irai voir la suite mais un petit peu déçu. Et puis ça s'appelle Justice League of America mais là le focus c'est plus la Justice League, le premier c'était plutôt la Justice League of America et voilà, donc
ouais,
c'est
mais on est en crossover
bizarre.
Donc c'est pardonnable, voilà. Quoi,
mais bon, ça c'est pas très grave ça, mais bon c'est sympa, mais je m'attendais à ce que ça me captive plus, cette deuxième partie.
Bon.
Voilà. Mais ça reste un bail, hein.
Ouais, non, mais moi, je sais pas. Je préfère quand c'est plus calme comme ça que des super-héros qui se mettent sur la gueule, quoi, à choisir.
Ah, c'est bien, ça. Il y a un côté enquête et tout.
Ouais, je
côté...
préfère ça, perso.
Bah, je pense que ça nous a un petit peu surpris, justement. Ça nous a un petit peu déstabilisé. Peut-être qu'on s'attendait tous à cette partie baston. Et finalement, c'est parce qu'on a eu, et tant mieux.
Oui, je préfère. Bah, mieux, je sais pas. Moi, j'en suis revenu des bastons entre super-héros, quoi.
Bah, non, mais j'aurais espéré que Geoff Jones, après 15 ans dans le métier... Enfin, autre chose à raconter que ça, quoi.
Sache enfin raconter une histoire.
À moins que ce soit la peur de Jeff Lemire, peut-être. De calmer le jeu.
Enfin, il y a quand même 8 pages de baston.
Ouais, mais 8, oui. 8 sur 20, je veux dire, on est en crossover, et vu la situation dans laquelle on était à la fin du dernier épisode...
Oui. Non, mais on a évité l'épisode entièrement baston qu'on pouvait craindre, quoi, oui, initialement, quand on voyait le Cliffhanger. Bien, alors je pense qu'on peut passer aux notes, si ça vous dérange pas. Donc, qui veut donner sa note en premier, allez-y. Bye pour Bruno.
Moi, c'est un très bon bail.
Ouais.
Pareil, bail pour moi aussi. Justement, par cet effet, pas que de la baston.
Ok. Et bah, pour moi aussi, ce sera un bail. Voilà. Avant, un bail franc et direct. On va continuer avec Animal Man, et c'est Steve qui va nous en parler, l'ami des animaux. Hein.
On ne dira pas ce que je leur fais en privé.
Non, s'il te plaît.
Mais non, justement, on laissera
juste
le mystère.
Cet épisode, voilà.
On laissera le mystère entier. Peut-être que je suis quelqu'un de très gentil avec les animaux. Donc c'est le 22e épisode. C'est toujours scénarisé par Jeff Lemire avec des dessins de Steve Pugh et de Francis Portela qui se partagent la tâche. Un épisode où on va retrouver Maxine dans la partie The Red, hein, la partie où elle peut communiquer avec les entités qui contrôlent le pouvoir. Je rappelle que Maxine a hérité du pouvoir de son père. Son père a été banni du Red. Et puis de l'autre côté, on va retrouver Animal Man, qui lui est toujours à la recherche de ces espèces de tueurs d'animaux qu'il poursuivait. Et les choses vont dégénérer très vite, pour l'un comme pour l'autre. Maxine va essayer de... puisqu'elle se rend compte que le Red s'adapte à elle... finalement, à celui qui est le possesseur du pouvoir, et que les choses changent, elle va essayer de recréer son frère. Son frère étant disparu, hein, je le rappelle, à la fin du dernier gros arc.
Ouais.
Et est-ce que les choses vont bien se passer ou pas ? Ça, c'est justement l'intérêt de cet épisode. Tandis qu'Animal Man, lui, va se faire un petit peu trancher, on va dire ça comme ça, et va subir des choses pas enviables, voilà. Je vais essayer de rester un petit peu cryptique. Franchement, c'est super bien mené, comme d'habitude. Je suis vraiment rentré dans l'arc. Autant la partie précédente était sympa, parce qu'on voyait un buddy vraiment au fond du trou. Là, on a un buddy qui reprend du poil de la bête, si je puis dire, sans jeu de mots. Vraiment. Non.
Oui.
Je m'en suis rendu compte en le disant, en fait. Et puis, on a Maxine qui essaye de gérer son nouveau rôle d'avatar, finalement, du Red. Et surtout qu'elle doit cacher ça à ses parents, enfin à sa mère qui en a sa garde. Donc vraiment très intéressant. Et surtout le cliffhanger, on le savait, ça avait été annoncé déjà dans les What's New in the New 52, mais je vais le taire pour ceux qui s'en rappelleraient plus ou qui ne le savent pas. Très bon retour d'un vieux personnage d'essai, très bien utilisé dans cette série Animal Man. En plus, franchement, moi j'ai vraiment passé un superbe épisode, quoi. Vraiment très très bon. Je crois que je suis le seul à l'avoir lu, malheureusement.
Oui, t'es le seul à l'avoir lu, mais par contre, donc, pas de coup de mou depuis ce grand crossover.
Ah, au contraire, même, il y a eu un petit coup de mou dans les épisodes précédents, mais c'était le temps que la situation se réinstalle. Et
Ouais.
là, c'est reparti du feu de Dieu, et j'ai vraiment hâte de lire le prochain, parce que l'arrivée de ce nouvel ennemi pour Animal Man, justement, à la fin de l'épisode, donne quelque chose de très intéressant.
Bon, alors pour ceux qui n'avaient pas lu depuis Rotworld comme moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi.
Ah ouais, c'est très très bon.
C'est encourageant. Très bien. Eh bien, on va passer à la review suivante. C'est New Guardians numéro 22, Green Lantern New Guardians, bien sûr. Et c'est Flo qui va nous en parler.
Oui, donc New Guardians, toujours avec Justin Jordan au scénario et Brad Walker au dessin. Un très joli Brad Walker. Enfin, c'est vraiment très très sympa au dessin.
Je sais pas comment il est. Tu l'as vu, le monsieur? Pour dire qu'il
Ah,
est joli?
il est sans doute aussi beau que ses dessins.
Payday!
Ça, c'est vraiment pédé. Pardon pour la référence merdique. Donc on reprend bah, exactement où on nous avait laissé au numéro précédent, c'est-à-dire avec Kyle Rayner, les gardiens, enfin les nouveaux gardiens, et toute une flotte de vaisseaux aliens qui entourent cette fameuse anomalie, ce genre de kyste gigantesque de la taille d'un météorite qui pétait et qui nous dévoilait le nouveau gros vilain de la franchise Green Lantern,
Ah
Relic, un genre de scientifique venu de
D'ailleurs.
l'univers d'avant, en fait, de l'univers
D'accord.
d'avant, qui était en fait enfermé dans cette anomalie. Et qui est libéré donc dans notre univers actuel. Et donc c'est un
Donc
genre de
un univers, pardon, où il n'y avait pas de gardien, c'est ça, au fait, l'idée.
c'est pas clair. C'est pas clair.
Ok.
En lisant, moi j'ai, enfin je sais pas, je crois que Steve tu l'as lu.
Oui, je l'ai eu aussi.
J'ai pas trouvé ça clair sur le fait que ou j'ai peut-être mal lu, mais sur le fait qu'il n'y ait pas de gardien avant.
Ben,
Mais
je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit jeu avec ça, quoi.
ouais, c'est assez ambigu. Et donc en gros, bah, c'est un genre de mec humanoïde de très grande taille, qui doit faire un bon 10 mètres de haut, qui est un genre de scientifique en fait. Et il va étudier justement le monde qui l'entoure, et notamment capturer Kyle Rayner pour essayer d'en apprendre plus bah, sur les gardiens, sur le. En gros, il arrive à capter vraiment toutes les infos, à trouver les moyens de tirer des infos des gens qui l'entourent et de les étudier et voilà. Et donc un vilain que je trouve assez charismatique, assez bien présenté, c'est assez réaliste entre guillemets parce que bah, par exemple il parle pas notre langue donc bah, personne comprend ce qu'il dit et les anneaux peuvent pas du tout le traduire. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa, bien mené, il y a de l'action, c'est assez fun à lire. Ça se prend pour ce que c'est pas prise de tête. Voilà, j'ai trouvé ça très cool moi.
D'accord.
Steve?
Donc ta note au final.
Mais Steve l'a
Ben,
lu également.
je l'ai lu aussi.
Oui. Ah oui, pardon. Oui, j'allais enchaîner avec la tienne, mais c'est pas grave. Vas-y.
Non,
C'est
ben,
vrai que tu n'as pas tellement parlé, tu n'as pas tellement donné ton avis.
non,
Vas-y.
j'ai vraiment trouvé l'épisode assez sympa. Le Relic a l'air d'être une menace assez intéressante. J'ai quand même l'impression qu'on se fout vraiment de notre gueule, mais pas dans le mauvais sens. Sur le jeu de, il viendrait peut-être de l'ancien univers, on sait pas trop ce fameux relique, un moyen peut-être de nous dire, bon, bah, l'ancien univers, vous l'oubliez maintenant, quoi. C'est terminé, l'univers qui compte, c'est celui qu'on a maintenant avec New 52. Enfin, c'est un peu la sensation que j'ai, je peux me tromper, hein. Mais
C'est un
voilà.
peu, oui, c'est un
Tu
peu une
penses qu'ils ont voulu
pirouette
faire passer
scénaristique.
un.
Oula,
Ah,
excusez-moi,
mais.
j'ai pas compris.
On n'y arrivera pas.
Je l'ai eu en
Tais-toi
stéréo.
donc! Je présente. Non, mais tu penses donc qu'ils ont voulu faire un message caché aux anciens lecteurs avec ce personnage-là?
Ah, je sais pas s'ils ont voulu faire un message caché. En tout cas, le scénariste de New Guardians, peut-être. Ou alors, est-ce une directive générale pour l'univers Green Lantern? J'en sais rien, mais j'ai quand même cette impression que le personnage héroïque nous donne l'impression de venir de l'ancien univers. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire peut-être à la lecture et ce qu'on peut déceler si on lit entre les lignes. Mais j'ai en même temps l'impression qu'ils se foutent un peu de notre gueule en nous disant, mais l'ancien univers, faut l'oublier maintenant. C'est terminé, on n'y reviendra pas, quoi.
Ouais.
Pareil, en
D'ailleurs,
lisant entre les lignes, c'est cette impression-là que j'ai.
moi j'y crois de moins en moins qu'on n'y reviendra pas, mais bon, c'est une autre question. En tout cas, on comprend mieux donc le nom de ce personnage-là, et ma foi, ça
Après,
semble assez intéressant.
ça reste une totale supposition. Mais ouais. Bon, comme tu l'as dit, Flo, enfin moi j'ai trouvé l'épisode très sympa, assez fun à lire. Et mon seul peut-être reproche serait que cette menace de relique qu'on nous a teasée pendant des mois à l'approche du changement scénaristique sur les séries Green Lantern, bah on la voit vraiment que dans New Guardians, qui était peut-être la série la plus mineure des Green Lantern. Hein, je compte pas Red Lanterns dans l'histoire. Et ça m'étonne quand même de voir autant l'histoire avancer sur relique. On sait qu'il y a un crossover qui se pointe bientôt. Et on parle de relique ici, dans la série la plus mineure. Je trouve ça un peu étonnant.
On retrouve le problème qu'il y avait dans Rise of the Third Army, où c'était uniquement Red Lantern, par exemple, qui traitait vraiment l'histoire.
Bah, enfin, sauf que là, Rise of of the Third Army, c'était un truc un peu un peu bof et qui avait pas tellement d'importance. Là, on est quand même sur la grosse menace a priori de l'univers Green Lantern, à moins qu'il y ait des surprises. Donc oui, effectivement, c'est une décision éditoriale et scénaristique que je trouve curieuse. Ceci dit, moi, ça me plaît que New Guardians soit une bonne série.
C'est cool. Ce que je pourrais émettre comme hypothèse, c'est peut-être que New Guardians est la série qui se vend le moins des trois. Donc, on essaye de faire un push, peut-être, de façon discrète, en disant, vous savez que Relic, il va venir. Si vous voulez déjà en voir sur Relic, achetez New Guardians.
Il est pas tout seul, hein. Ils sont plusieurs, en fait, ennemis, dans le crossover, donc,
Ouais, mais c'est celui qu'on nous a vraiment teasé depuis des mois.
Ah, la meuf aussi, quand même, pas mal, donc, qui est dans Green Lantern, elle.
Donc, je sais pas trop, bon, moi, j'aime toujours bien la série, mais j'ai un peu cette impression un peu forcée de le mettre ici pour essayer de rebooster un peu les ventes de ce titre-là.
Bon, en tout cas, j'ai lancé le débat, mais on va s'arrêter là sur cette franchise. Donc,
non, mais attends, j'ai encore des milliers de...
Je pensais que t'avais encore des...
Oui. D'explications potentielles. Je pense qu'on en a pour environ 8 heures.
Oui, je participe. Je m'en fous.
Non, pour moi, c'est un bail.
Oui, ouais, pareil. Flo. Vraiment, bonne série. Moi, pour le moment, l'univers Green Lantern, ça me plaît, quoi. C'est cool.
Ok, très bien. Steve, tu avais quelque chose à dire sur le Batman 66?
Oui, qui est sorti enfin en version papier, hein, pour ceux qui sont allergiques au digital. Je dois avouer que, enfin, perso, je l'ai juste feuilleté. Je l'ai pas lu. De toute façon, c'était les deux premiers épisodes qu'on avait en digital qui sont juste réimprimés. Et je trouve que ça passe presque mieux en version papier qu'en version digitale. Et ça me pose un problème.
Oui, c'est un comble, du coup.
Quand même. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a feuilleté.
Non.
Si, je l'ai feuilleté. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et en plus, là, au moins, on a la belle couverture de Michael Allred. Voilà.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vraiment dommage. Dommage qu'un projet digital... Bon, alors, c'est le premier de DC à nous faire un truc digital un peu turbo-média, mais c'est mieux rendu sur papier qu'en turbo-média. Donc, quand même, il y a des soucis. Mmh.
Tu fais bien d'ailleurs de parler un petit peu de digital, puisque cette fois-ci nous n'avons pas de comics digitaux, sauf erreur de ma part. Mais
Ouais, et d'ailleurs pour le Batman 66, moi je l'ai lu en version papier du coup, et j'ai trouvé ça plutôt cool, et pour moi c'est vraiment un check-it. Hein. Voilà, l'histoire est très rigolote, il y a des scènes, surtout la deuxième partie, qui m'ont bien fait rire. Effectivement, Steve, je comprends que t'aies préféré le deuxième au premier, mais ouais, c'est sympa comme tout.
Ouais, il y a des choses encore qui me dérangent dans leur façon de faire du turbo-média, entre guillemets. Et là, justement, on est presque sur la découpe d'un format papier.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, du point de vue du scénario, par contre, j'ai trouvé des bonnes idées. Et donc, ça peut valoir le coup en version papier de tenter aussi.
Mais en même temps, si on soutient pas un projet digital que DC essaye de faire, est-ce qu'ils continueront d'en faire d'autres? En tant que lecteur, on a envie d'en voir d'autres. On aimerait qu'ils s'améliorent et qu'ils en proposent d'autres, des choses comme ça, parce que c'est assez intéressant, tant que ça reste anecdotique et que leurs 52 titres ne paraissent pas comme ça. Mais en même temps, aller soutenir un projet qui est moyen, c'est chiant parce qu'on dépense de l'argent bêtement. Et si on soutient pas, ils vont arrêter. Donc
après, ils sont pas très bons en turbo média DC, mais par contre en digital, c'est vrai que c'est plutôt leurs titres qui se vendent les mieux, comme Injustice ou tous les titres qu'on a en digital first.
Ils en ont arrêté beaucoup en même temps cette semaine.
Mais que ce soit Arrow et compagnie, ça se vend bien quand même. Donc.
Bon, alors je sais pas si ils sont spécialistes en turbo média, mais on va voir, Bruno, si tu es spécialiste en turbo review.
Ouais.
Avec l'indé, on attaque l'indé, beaucoup de choses cette semaine, et justement tu vas nous parler de Watson Holmes numéro 1. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Watson and Holmes, c'est chez New Paradigm Studio, donc c'est une maison d'édition que vous connaissez peut-être pas parce que c'est leur première sortie en fait. Et pour pouvoir sortir ce titre, c'est à la suite d'un Kickstarter en fait. On a les infos à la fin du comics. Au scénario, on a Carl Bowlers et au dessin, on a Rick Leonardi. Donc comme le nom.
Ouh, Rick Leonardi!
Ouais, Rick
Putain, ça fait
Leonardi.
longtemps que je l'avais pas vu lui.
Ouais, c'est ça, et c'est plutôt bon d'un point de vue du dessin. C'est une réinterprétation moderne de bien sûr de Watson et Holmes, mais
Je m'attendais pas du tout.
version Black en fait. Donc c'est un team-up Black entre un médecin qui est dans un hôpital, un Black qui et une sorte de détective un peu foufou Rasta qui est donc Sherlock Holmes.
C'est le traitement de Nivea Icon appliqué à Sherlock Holmes, quoi.
C'est ça, ouais, exactement. Ça commence avec un bébé retrouvé dans une poubelle
Et ce sont les meilleures blagues souvent, ça, qui commence par ça.
C'est vrai, voilà, avec Watson qui justement essaye de sauver ce bébé à l'hôpital et n'y arrive pas. Puis après, il est mêlé à une sorte d'enquête où Sherlock Holmes est impliqué, qui concerne le tabassage d'un pauvre gars dont la copine s'est fait enlever. C'est vraiment une enquête, donc ça, au moins, c'est vraiment fidèle à l'esprit Sherlock Holmes, avec peut-être un lien justement avec cette première partie qui concerne le bébé. Ça commence bien, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Après le côté on est que entre black, ça m'a fait un petit peu bizarre puisque j'ai l'impression qu'on voit pas un seul blanc dans tout le numéro. Donc ça c'est un peu étonnant. Mais par contre l'enquête est bonne et j'ai vraiment envie d'aller voir la suite. A priori il y a 4 numéros qui vont sortir pour faire le premier arc. Et au moins jeter un œil. C'est une nouvelle maison d'édition. Voilà, je crois que le premier print est déjà sold out. Ils n'avaient pas imprimé beaucoup, je crois 3800 et quelques, mais tentez votre chance. Un check-it pour moi.
Bon, Très
au
bien,
moins,
donc.
Au moins, il y a des projets Kickstarter qui sortent, c'est bien.
Exactement, et ça fait plaisir.
Ouais. Eh bien, si c'est tout, je vais passer à une review X-Files numéro 2. Saison 10, numéro 2. Donc, rappelez-vous, c'est en fait cette série qui continue la série télé, en tout cas scénaristiquement parlant, là où on s'est arrêté. Donc on est quelques années après, et au fait, dans le dernier épisode que vous aviez chroniqué, on s'apercevait qu'il y avait au fait tous les gens autour de Fox Mulder qui avant travaillaient au FBI, qui sont menacés par quelque chose ou quelqu'un. Et donc, là, on retrouve notamment, dès le début de l'épisode, le fameux agent Doggett, qui avait remplacé Mulder lors de la saison 8, grande saison 8, et qui va, il va lui arriver quelque chose. Et on retrouve Mulder et Skinner qui vont enquêter. Mulder va retrouver des anciens alliés que l'on pensait disparus. De son côté, Scully, qu'on avait quitté dans une mauvaise position, va faire face peut-être justement aux gens responsables de tout ce qui se passe. On repart sur des choses qu'on a pu voir dans la série, notamment dans la saison 8. Donc il y a beaucoup de clins d'œil à tout ce qu'on a vu dans X-Files. Non, enfin franchement, c'est très 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 sympa. On retrouve vraiment l'ambiance de la série, il y a de l'humour, il y a des dialogues vraiment qui font mouche. On se prend même à au fait entendre les voix des personnages quand on lit ce comic. Donc, franchement, c'est vraiment une réussite. Pour moi, c'est vraiment un très très bon une très très bonne chose. Alors, je l'ai pas dit, je crois d'ailleurs au début de ma review, c'est chez IDW, hein, bien sûr, ils ont cette licence. Et je ne sais plus d'ailleurs si je suis le seul à avoir lu cette fois-ci ce second numéro.
Non, non. Je l'ai lu aussi. Pareil, je l'ai trouvé très bon. Ça m'a fait plaisir de voir l'agent Doggett. Ils n'ont pas oublié tout ce qui avait été mis en place dans les deux dernières saisons. Il nous reste plus qu'à retrouver l'agent, je ne me rappelle plus son nom, l'autre qui était un peu médium. Celle qui apparaissait dans la saison 9.
Oui, l'agent. Ah ben, je ne sais plus, justement.
Oui, enfin, bon, voilà, vous voyez de qui je parle. Bon, j'espère que Doggett sera pas trop dans le caca.
Ouais.
Parce que pour moi, c'était des bons ajouts d'avoir des nouveaux personnages, donc ce serait un peu bête de s'en débarrasser dès le début d'une saison 10. Mais bon, si c'est le choix, c'est le choix. Non, on rentre vraiment dedans. Et puis, bah, le plaisir de retrouver certains anciens personnages, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais en même temps, s'ils se débarrassent de personnages aussi importants, ça fait vraiment encore plus série télé. La saison qui commence par la disparition de personnages clés, C'est un grand classique. Alors là, bon, c'est un peu bizarre puisqu'on est dans une BD, donc ils pourraient les utiliser. Ils sont pas obligés de les faire disparaître puisque les acteurs ne veulent plus jouer le personnage. Enfin bon, je sais pas. On verra. En tout cas, c'est très prenant. Et effectivement, je n'ai pas donné les crédits. Je ne sais pas pourquoi, comment j'ai pu oublier. Donc Joe Harris, c'est au scénario et le scénario est supervisé par Chris Carter. Et les dessins sont de Michael Walsh et Michael Walsh, sans être exceptionnel, arrive vraiment à très très bien rendre les visages et on reconnaît parfaitement les personnages. C'est vraiment vraiment très très bien fait quoi.
Bah c'est ça l'intérêt aussi, quoi, c'est qu'on reconnaît vraiment les personnages tout de suite. Et ça ajoute vraiment au charme, on a l'impression d'être dans la série, quoi.
Tout à fait. Bien, bah alors donne ta note, Steve.
Ah, pour moi, ça continue d'être un bail, j'aime beaucoup. Le mystère est vraiment bien, donc j'ai envie d'en savoir plus à chaque fois. Non, moi, ça me convient parfaitement, cette série.
Ouais, pareil, moi c'est mon coup de cœur cette semaine, vraiment très très bonne lecture. Et donc voilà, un très grand bail et je vous encourage vivement à vous y intéresser, que vous soyez fan d'ailleurs ou non de la série, mais si vous êtes fan, c'est encore mieux, évidemment. Steve, tu vas nous parler d'un titre très intéressant aussi, Demen, qui est
Oui.
un numéro 1.
Alors, ça sort chez Boom, scénarisé par Matt Gagnon et dessiné par Michael Alan Nelson. Alors, c'est vraiment particulier. Le choix de cette série est vraiment bizarre. En fait, c'est la mafia chez les vampires, grosso modo. On va le résumer comme ça. On a donc des vampires qui contrôlent, qui sont des familles de vampires en plus, hein, qui contrôlent vraiment la pègre, cet aspect assez mafia. Et bien sûr, les vampires dorment le jour, hein. On n'est pas dans ces espèces de vampires tarlouzes qui peuvent sortir en pleine journée et qui brillent. Hein?
C'est
Voilà.
clair.
Je ne citerai pas de nom, mais tout le monde
C'est
aura
quand même
reconnu.
mieux.
On a des vrais vampires qui doivent dormir sous peine de brûler, quoi.
Ouais.
Et donc, pour gérer leurs affaires dans la journée, ils engagent ce qu'ils appellent des démens, qui sont des personnages qui vont être entraînés à plusieurs techniques de combat, qui vont avoir des... On a encore que très très peu de réponses à certaines questions, mais on pense que ces personnages-là, enfin ces gens-là, ne sont pas que de simples humains, peut-être des ghouls, sait-on jamais, qui vont faire ce qu'ils ont besoin de faire durant la journée. Ils vont régler des problèmes. Ça s'organise vraiment comme la mafia, ces familles de vampires, mais en pleine journée, avec des gens qui ne sont pas vampires et qui travaillent pour eux. Et on va suivre un de ces démens, justement, d'une famille, qui va devoir régler les problèmes. Alors, on voit un petit peu ses tâches au départ, comment s'organise une journée plutôt classique, où il doit régler tout un tas de problèmes, payer des gens. C'est pour ça qu'il y a un côté très mafia, il doit payer, graisser la patte de certains flics, il doit aller s'occuper de certaines familles qui ont été affectées par les vampires, les espèces de protégés, etc. Et puis, c'est là que va commencer à démarrer les problèmes. Il va devoir aller récupérer un vampire qui se trouve dans une boîte de nuit spécialisée vampire, voilà, qui est en terrain neutre, et un des membres d'une famille rivale est mort, assassiné. Et donc, ça va commencer à entraîner une espèce de guerre entre ces différents clans de vampires qui sont vraiment comme régis comme des clans de la mafia. Et franchement, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. J'ai passé un super moment à la lecture. J'ai qu'une envie, c'est de dévorer le numéro suivant. Ça m'a vraiment super intéressé. Le personnage principal est vraiment très charismatique. Il est en plus tout nouveau dans ce rôle de Demen. Et bah, il doit prendre des décisions et il comprend pas forcément non plus toujours ce qui lui arrive, quoi. Franchement, superbe épisode, super premier épisode. Je suis plongé dedans dès le départ et je ne l'ai pas lâché jusqu'à la fin. Et j'ai regretté que ça s'arrête à ce moment-là, quoi. J'ai vraiment hâte de lire le deuxième numéro. Apparemment, c'est une série régulière. Donc ce n'est pas juste une mini. Donc non, vraiment, bon
Tant mieux.
boulot. Un univers qui est plutôt bien développé, en tout cas pour ce premier épisode. On comprend les enjeux, il nous manque encore bien sûr quelques réponses à certaines questions, mais qui, je pense, vont venir très rapidement. Non, vraiment, mon coup de cœur de la semaine.
Florent, qu'est-ce que tu en as pensé?
Mais c'est pas mon coup de cœur, mais c'est vrai que c'est très bien fichu. Après, c'est moins une histoire de vampire qu'une histoire de mafia. Hein. Faut quand même noter. Des petits éléments comme ça, mais un peu surnaturel, mais sinon c'est vraiment une histoire de mafia et de famille, de lutte entre famille vampire, quoi. Ceci dit, oui, j'ai bien aimé le personnage principal, ses relations, bah, sa collègue là,
Sa collègue de nuit, de jour, là, ouais.
voilà, c'est vraiment très très sympa, les dialogues sont vraiment sympas, il y a une galerie de personnages pas mal, c'est vraiment une très bonne surprise, ouais. Les dessins sont très cool. Ça ressemble un peu à du au frère Moon, hein, Fabio Moon, etc. C'est un petit peu ce
style-là. Moi, je trouve
que
ça ressemble beaucoup à Trevor McCarthy, perso. Mais...
Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait.
Donc, alors justement, bien, Bruno, qu'est-ce que t'en as pensé,
bah,
toi, en général?
Ça a failli être mon coup de cœur aussi, hein, mais bon, j'en ai choisi un autre au final. Mais vraiment très bonne histoire, très bon fond. Il y a beaucoup de choses en un seul numéro déjà pour placer l'histoire. Le personnage est charismatique effectivement, et la narration est claire. C'est pas du tout compliqué, même s'il y a pas mal de choses à lire. On s'y perd pas. Il y a des scènes d'action assez bien menées.
La scène d'intro, on est typiquement dans une scène de film, quoi. Tu sais à quel moment tu pourrais placer le générique en plus.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a des petites touches d'humour. Il y a un univers quand même très très paranormal, hein, parce que il y a pas que les vampires. Il y a peut-être d'autres choses. Il y a des artefacts magiques. Il y a des choses comme ça. Et ça a l'air vraiment très riche. Et effectivement, je suis content que ce soit un ongoing, parce que il y a vraiment du potentiel.
Et ils ont ouvert une porte. Enfin, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Franchement, ils peuvent faire vraiment n'importe quelle histoire là-dedans.
Ouais,
le cercueil de Pandore, je sais pas comment le dire. Mais...
La chef du clan du fameux Daemon, elle est assez charismatique.
Elle me fait un peu penser.
Au niveau de ses boobs.
Elle me fait un peu penser à un personnage que l'on voit dans Defiance, notamment, pour ceux qui regardent la série.
C'est-à-dire, je sais pas qui.
Non. Moi, je vais vous dire globalement à quoi ça m'a fait penser. Alors, je l'ai pas lu entièrement. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de terminer. J'en ai lu qu'une partie, donc je vais moins rentrer dans les détails que vous. En tout cas, j'ai trouvé ça très, très verbeux. Mais dans le bon sens du terme, hein. C'est vraiment bien rempli. En fait, les dialogues sonnent juste. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui, enfin, ça me rappelle le folklore de Blade. Donc le fameux comics Marvel avec les vampires, mais c'est aussi très très bien foutu. Enfin, l'idée principale est originale. Il a réussi vraiment à trouver un truc original sur les vampires, donc faut le faire, parce que c'est quand même très dur de trouver encore un pitch original autour de ce thème là
Je dirais, moi, qu'il se rapproche un peu de Vampire la Mascarade, le jeu de rôle, ouais. Notamment
ouais. Ouais,
dans l'esprit, avec les différentes familles organisées un peu comme des clans de mafia. Bon, là, il n'y a pas forcément... en tout cas, on nous fait pas étalage de gros pouvoirs sur ces premiers épisodes, mais on sait jamais ce qui peut nous réserver la suite.
Ouais. En même temps, je n'ai pas lu énormément de choses, de comics, au fait, autour des vampires. Par exemple, American Vampire, je l'ai arrêté depuis longtemps, donc je sais pas s'il y a des similitudes, par exemple. Est-ce que dans American Vampire, il y a des familles de vampires? Je ne sais pas, je peux pas répondre à cette question, et je ne sais pas si l'un de vous lit American Vampire également.
Bah, t'as les différents. Oui, vas-y, je t'en prie, Flo.
Oui, il y a forcément ce côté un petit peu clan, enfin surtout chef, un peu chef de meute de vampires, quoi. Il y a ce côté-là, mais après, non, c'est toute manière, American Vampire part pas dans la direction de construire un univers avec des clans de vampires et une mafia, etc. C'est pas du tout la direction que prend c'est beaucoup plus character driven. Voilà.
Oui. Très bien. Bonne note. C'est bien. Si je peux me permettre. D'accord. Un
gros
bail pour toi.
Un gros bail pour moi aussi.
Un gros bail pour moi aussi. C'est mon coup de cœur de la semaine.
Ok. Bon, alors moi, je vais pas donner ma note puisque je n'ai pas terminé de le lire, donc ce serait pas très objectif. Mais bon, il y a des chances que ce soit un gros bail, hein, vous l'aurez compris. On va passer à The Strain, alors numéro 1, mais c'est The Fall, en fait, c'est pas le premier comic The Strain, si je dis pas de bêtises.
C'est la deuxième.
Voilà.
Alors, pour replacer un petit peu les choses, d'ailleurs, je suis assez étonné que je sois le seul à l'avoir lu, parce que c'est quand même une grosse sortie.
Ah bah, c'est surtout moi un manque de temps, hein, perso, pour cette semaine.
C'est la deuxième partie de la trilogie de romans de Guillermo del Toro et Chuck Hogan, The Strain, qui est donc adapté en comics par David Lafame au script et Mike Huddlestone au dessin.
Non, mais c'est du très bon David Lafame, hein, pour fois.
Non, mais je...
C'est très bien, c'est très cool. Bah, la première mini en 11 numéros était déjà très bien, elle s'est terminée au mois de février, et elle sort en français, je crois. Le premier tome est sorti en français, il me semble, il y a peu de temps.
Il est déjà sorti, il y a 2 mois.
Donc je vais pas pouvoir vraiment trop en dire pour pas spoiler la fin, parce que c'est vraiment la suite directe. Donc ça, c'est le deuxième bouquin qui s'appelle The Fall. Je sais pas en combien de numéros ça sera, cette mini. C'est toujours dessiné par Michael Stone qui est au top.
Je crois que c'est prévu pour être dans du même format, 11 ou 12 épisodes, quelque chose comme ça.
11 ou 12 épisodes certainement. On reprend donc vraiment à la fin du précédent, avec donc notre bande de survivants de cette mini début d'apocalypse vampire, on parle encore de vampire, où ils avaient réussi à faire fuir le master, ce gros vampire, un petit peu le boss final du bouquin. Donc on retrouve le vieux Abraham, ce roumain qui a échappé des camps de concentration et qui est un petit peu le spécialiste des vampires. Ephraim, le chef du centre de... ce chef du centre
de contrôle des maladies le CDC.
Infectieuses du CDC qui est on the run parce que recherché par la police, sa nouvelle petite copine, son fils et un exterminateur de rats voilà, qui est un peu le gros bras de l'équipe. Et donc on les retrouve toujours à New York avec cette invasion un petit peu de vampires qui continue, mais on va se pencher sur un autre aspect de la mythologie vampirique que développe David Lafame, qui est un bouquin qui est l'Oxydo Lumen, qui est en fait la transcription de tablettes retrouvées au XVIe siècle dans le désert du Zagros et qui... on sait pas trop ce que c'est, mais a priori ça révèle pas mal de secrets sur les vampires et sur leur origine, puisque ce bouquin qui a traversé le temps se retrouve entre les mains de Palmer le Vieux, qui a fait alliance avec les vampires, qui lui est toujours humain. Et donc ce bouquin est entre ses mains, et donc on va voir un petit peu ce qui va advenir de ce bouquin, les vampires le veulent, et donc ce bouquin est assez entouré de mystères, il est d'ailleurs entouré d'une coque en argent, donc en fait les vampires peuvent pas le toucher. Donc c'est assez mystérieux, c'est toujours très très bien, je vais pas en révéler plus sur l'intrigue parce que ça spoilerait vraiment la fin de la première mini. Donc c'est très bien, au dessin c'est très cool, c'est du Mike Huddleston beaucoup plus classique que dans un Butcher Baker, hein. C'est vraiment la continuité de la première mini. Donc très très cool, très très cool. Moi c'est un gros bail. Super.
Je crois que tu étais le seul à l'avoir lu.
Oui.
Et du coup moi j'avais commencé au fait la première série et effectivement j'avais trouvé ça assez intriguant. Donc là c'est l'occasion peut-être de m'y remettre. Et mais effectivement donc j'ai pas commencé cette seconde série tout simplement parce que je n'avais pas terminé la première, mais voilà.
Donc apparemment tu as bien fait surtout.
Oui, du coup heureusement quoi, parce que sinon je me serais spoilé pas mal de choses.
Pour ceux qui veulent découvrir, très c'est sorti en VF il y a 2 mois.
Tout à fait. Oui, alors chez quel éditeur
devrait pas
par
tarder.
Contre chez Delcourt,
chez Delcourt je crois.
Fusion,
non,
très bien.
Panini.
J'ai plus.
Non, c'était Panini.
Fusion.
Hein.
Ah, Panini. Fusion Panini qui a fait ça.
Fusion Comics.
Eh bien surprise voilà. Panini.
Recherchez les Comic City parce que je l'avais chroniqué.
Très bien. Alors justement, Bruno, on va reprendre la parole avec Blood Brothers numéro 1. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'est encore un truc de vampire?
C'est décidément la semaine des vampires en fait. Et
ah
donc,
décidément.
Donc c'est mon coup de cœur parce que franchement je me suis vachement marré quoi. C'est hyper drôle. C'est une série donc qui sort chez Dark Horse qui est prévue en 3 numéros. Au scénario on a Mike Gagerman et Andrew Waller sur une histoire de Ethan Cohen avec des dessins d'Evan Shiner, donc des personnes que je ne connais pas du tout, mais qui font une histoire vraiment très délirante qui raconte l'histoire de deux je crois pas de deux vampires en fait qui sont un petit peu des losers à Las Vegas qui travaillent pour une agence de chasseurs de primes en fait. Ils sont tellement comme c'est des vampires, ils craignent rien, ils sont assez balèzes et donc ils bossent quand même parce qu'ils ont vachement de dettes et qu'ils sont obligés d'avoir de la thune et ils ont pas envie de tuer des gens pour gagner de la thune et donc ils sont chasseurs de primes et on a droit à un buddy movie entre les deux personnages qui est vraiment vraiment tordant, c'est-à-dire qu'ils se répondent avec vraiment beaucoup de blagues. Il y a pas mal de petits flashbacks qui sont résumés à quelques petites cases qui sont vraiment très drôles, où on voit Michelangelo sous un autre angle, on voit des rites un peu païens un petit peu bizarres. Il y a vraiment des trucs très très drôles. Et donc le pitch, c'est en dehors de ces deux potes là en fait, il y a un méchant qui a volé un artefact magique dans un musée et qui va l'utiliser pour rendre vampire un des grands manias de Las Vegas. Et bien sûr, il va y avoir des soucis puisque pour pouvoir faire la transformation de ce mania de Las Vegas, ils vont avoir besoin du sang d'un des descendants d'un des plus grands anciens vampires. Et il s'agit d'un des deux losers. Et donc ils vont s'en prendre à lui et à son pote. Et voilà. Et c'est vraiment c'était teasé comme étant un very bad trip dans l'univers des zombies, des vampires pardon. Et c'est le cas.
D'accord.
Donc par contre la partie graphique est pas c'est pas le top du top, mais franchement c'est efficace. Donc voilà, c'est pour moi c'est un bail et franchement voilà, tentez le coup, hein, c'est pas une grosse série, 3 numéros et plutôt cool.
Par contre, ça vaut son prix.
Ça vaut son prix. Ah oui, franchement, moi je me suis vachement bien marré et ça vaut les 4 euros. Ouais.
Ok. Bon, bah alors, vu que tu étais le seul, tu clôtures cette section indé.
Tout à fait.
Et on va passer au gros morceau qui était Marvel. Encore beaucoup de titres cette semaine avec Nova numéro 6. C'est Steve qui nous en parle.
Alors, reprise en main du titre par Zeb Wells avec des dessins de Paco Medina. L'équipe Jeff Loeb, Ed McGuinness est partie ailleurs, retournée sûrement à la branche animation. Alors, ça va être un épisode assez posé. On va clore un peu le peu d'intrigue qui était resté en suspens à la fin du premier arc par Jeff Loeb, et puis il nous tease des choses pour le début. C'est vraiment un épisode introductif, on va dire, au run de Zeb Wells. On a Nova qui va devoir reprendre un petit peu sa vie de tous les jours, après être partie dans l'espace pendant un bon moment, et ça te fait griller par sa mère, surtout, qui a compris qu'il était Nova. C'est franchement assez fun à lire. Zeb Wells prend ses marques doucement. Il remet sur le devant de la scène quelques intrigues qu'on avait pu voir avec ce qui se passait au collège pour le jeune gamin qui est Nova. On va voir aussi dans le bureau du principal face à cette espèce de clone de Strickland qui ouais. Me fait marrer d'ailleurs, qui est un peu moins réussi honnêtement par Paco Medina que je trouve par Ed McGuinness, qui tenait mieux le personnage, mais bon, visuellement.
Ah bah ouais, mais il lui donne un peu plus de profondeur là, il lui donne un peu plus de rôle, de choses à faire dans la série, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il perd un petit peu son côté Strickland et qui devient un personnage un peu plus touffu, quoi.
Quand je dis qu'il était moins bien tenu, c'est vraiment plus par les crayons en fait. On avait plus ce côté ouais. Strickland avec Ed McGuinness qu'avec Paco Medina, mais on fait quand même le lien assez rapidement. Voilà, c'est un épisode qui clôt, on va dire, ce qui pouvait rester de toutes petites intrigues du premier arc par Jeff Loeb et Ed McGuinness, et qui va nous emmener vers autre chose. Moi, j'ai pas grand chose de plus à ajouter sur ce Nova. Enfin, c'est vraiment fun à lire, c'est vraiment sympa. On va voir où ça va. C'est difficile de juger Zeb Wells sur un numéro, surtout un numéro qui est, on va dire, clôture et introduction en même temps.
Ouais, bah justement, moi je l'ai lu et j'avais très très peur en fait de cette reprise en main du titre par Zeb Wells et Paco Medina. Je me disais, mince, on va perdre Jeff Loeb et Ed McGuinness alors qu'ils ont fait un super boulot sur les premiers épisodes. Et finalement, j'ai quasiment, je dis bien quasiment, hein, bon, c'est pas tout à fait ça non plus, mais j'ai quasiment pas vu la différence. Ça aurait pu être limite Jeff Loeb toujours au scénario et Ed McGuinness au dessin. Ça s'est vraiment fait en douceur, cette transition. Ils sont vraiment restés dans le même esprit de la série. Franchement, pour le moment, c'est vraiment une très très bonne reprise. Et autant je craignais avant d'avoir lu l'épisode, autant je suis très rassuré pour la suite.
Oui, puis on a vraiment un épisode où on a très peu de Nova finalement, on a plus de Sam Alexander, ce qui fait du bien aussi.
Oui, alors peut-être qu'effectivement la série va enfin plus se poser sur ce personnage-là. Et moins sur des intrigues en scène.
En même temps, normalement, si ma mémoire est bonne, il va faire partie du crossover... je retrouve plus son nom.
Du scénariste
d'Avengers. J'ai un gros trou de mémoire. Jonathan
Infinity.
Hickman. Voilà, Infinity. Donc, je suis pas sûr que ce soit plus posé que ça, quoi.
On verra. En tout cas, la transition est très bien fichue. Et je continuerai, du coup, à lire ce titre. Je vais te dire, hein, pour moi, c'est un bon bail. Et pour toi, Steve?
Pareil. Bye aussi. Moi, je fais plus confiance à Zeb Wells qu'à Jeff Loeb, honnêtement, qui m'a beaucoup déçu de ces dernières années.
Ok. Bon, en tout cas, là, pour une fois, il nous a pas déçus et le. Les...
Ah oui, non, mais je reviens pas sur ces 5 premiers épisodes qui étaient bons, ce qui d'ailleurs était presque étonnant.
Oui, mais en tout cas, la maison est entre de bonnes mains. Enfin, la maison, je sais même pas comment le dire. Enfin, en tout cas,
des idées.
Voilà. Allez. Et parce que j'ai plus d'idées, on va passer à la suite avec encore un bail absolu à mon avis, le What If AVX numéro 2, c'est Flo qui nous en parle.
Oui, un comics qui a beaucoup d'idées également. deuxième numéro sur 4 de la mini-série, donc écrite la commande faite pour Jimmy Palmiotti et dessinée par Jorge Molina. Alors, je vais commencer par le bon, c'est bien dessiné, c'est joli Jorge Molina, c'est vraiment sympa.
C'est pas mal.
C'est sympa. J'ai voulu voir la suite quand même parce que malgré un premier numéro très très mou et très en mode autoroute, tout droit, automatique, la fin m'avait un peu un peu euh, piquer ma curiosité.
Oui.
Voilà, j'ai le mot. Où en fait, Cyclope avait tué Storm par erreur en voulant attaquer Cyclope. Voilà, en gros, Storm s'est interposée et schnick. Voilà. elle est morte et du coup, grosse baston. Donc en fait, je pensais que ça allait être un peu mieux. Et finalement, non, pas du tout. C'est trop de la merde. Il y a des gens qui... Donc il y a de la baston, il y a un hélic arrière du shield donc qui tombe, c'était aussi le cliffhanger de la fin du premier. Un hélic arrière qui tombe, des gens qui meurent de manière vraiment capillotractée, ça sort de nulle part. On voit Falcon qui meurt sur une page. C'est juste pour faire la page émotion avec Cap et Falcon et c'est tout.
Ça et sent après, le gros boulot de commande quand même.
Après on passe à quelqu'un d'autre qui meurt, je vous dis pas qui. Ah, non, oh mon dieu, non, il est mort. Hop, on passe à une autre page, baston, etc., etc. Enfin, c'est vraiment de la merde, quoi. En gros, l'histoire, c'est le phénix qui continue d'approcher et qui va bien finir par arriver sur Terre et toucher, évidemment, une personne.
Oui, voilà. Au moins, c'est fidèle à l'original. Et alors, donc, tu n'es pas tout seul, en plus, à avoir lu ça.
Oui.
Bruno s'est fait du mal.
Je me suis fait du mal aussi. J'ai voulu continuer pour voir si, enfin, ça allait vraiment diverger de AVX, la série originale. Ça finit par changer à la fin du 2, mais qu'est-ce que c'était laborieux pour en arriver là. Même graphiquement, moi j'ai trouvé ça correct, mais sans plus, avec des gros défauts à chaque fois qu'il y a toujours pareil, les profils des personnages, je sais pas, il les fait pas bien du tout. Il a du mal. Il y a 2-3 planches sympathiques, mais voilà, ça casse vraiment pas 3 pattes à un canard. Patienter pour la version française qui a priori rassemblera toute la mini-série dans un hors-série en kiosque.
On attend ça avec impatience.
Voilà, parce que ça reste tout petit check-it. Mais voilà, je suis quand même curieux, donc je vais me taper sur les doigts, mais j'irai voir.
Au prix que ça coûte, au prix que ça coûte, c'est un pass.
Je vous ai pas demandé vos notes, alors vous allez leur donner, s'il vous plaît, et dans l'ordre dans lequel je vais les demander. Non, je plaisante. Steve, tu voulais dire un truc, par contre.
Oui, il y a un truc qui me gêne quand même. Bon, déjà, AVX, c'était quand même de la grosse merde. Ça reste mon avis, ça n'engage que moi. AVX, c'était vraiment un crossover pourri. Mais ce qui me gêne encore plus, c'est qu'on est vraiment dans le travers du what if. C'est-à-dire le what if qui nous dit que, de toute façon, si la situation s'était pas passée comme ça, elle serait 10 fois pire. Et on est vraiment dans le what if de base. Je pensais qu'il y aurait un peu plus d'idées, surtout sur un what if qui est en 4 parties quand même.
Ouais.
Une mini en 4. Si c'est pour nous faire de la dévastation pendant 4 épisodes et nous dire que finalement les choses se sont mieux passées dans la version originale, il n'y a pas de créativité derrière, quoi.
Oui, c'est un peu une parodie de... Une parodie de What If. C'est
ouais.
What If qui se parodie lui-même. Et d'ailleurs,
Mais je l'ai pas lu. Après, je donne pas mon avis parce que je l'ai pas lu. Je peux pas me permettre de juger.
Ouais, j'allais dire où sont les What If en une partie aussi, puisque il fut un temps What If c'était un épisode. C'était
pas. C'est la mode maintenant.
Hein.
On n'a plus de numéros sur les What If, parce qu'avant, rappelons que c'était une série quand même, qui avait de numéro en numéro et puis des thèmes différents. Maintenant, on te fait une mini série sur un événement et on sort un What If quand on y pense. Quand on n'a rien à sortir.
Ne dépensez pas $16 dans cette mini en 4.
En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas le Megazord, au moins.
Oui,
donc, vous lirez la suite. Voilà, c'est la conclusion pour cette review. On va passer à Fantastic Four numéro 10 avec Bruno, et peut-être que c'est un peu mieux.
Alors oui, c'est un peu mieux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Fantastic Four. On parle souvent de FF. Fantastic Four, une série qui continue son chemin dans l'espace et à travers le temps. J'ai rattrapé mon retard récemment, du coup j'étais content de lire ce numéro 10 que j'ai trouvé plutôt bon. Au crédit, c'est toujours Matt Fraction et Mark Bagley au dessin. Matt Fraction au scénario et Mark Bagley au dessin. Dans cette histoire, en fait, Reed est bel et bien obligé d'avouer aux autres que les choses vont mal pour eux, puisque leurs pouvoirs commencent vraiment à se dérégler un petit peu tous. On a droit à un Johnny Storm qui est un petit peu énervé qu'on le prenne un peu pour un gosse, c'est-à-dire qu'ils lui ont rien dit jusqu'à présent. Au niveau des dialogues, j'ai trouvé que cette partie-là était bien gérée au niveau de la réaction de Johnny Storm. Mais voilà, en même temps, Reed, en fait, il a passé quand même 10 épisodes où on savait pas trop ce qu'il faisait, et là, en fait, il nous explique qu'en fait, chacune de ces étapes avait vraiment un but important pour essayer de trouver un remède à leur situation, donc voilà, ça c'était plutôt malin, Et ils se rendent compte en fait que et peut-être que c'est pas quelque chose qui leur a, enfin qui c'est peut-être quelque chose qui leur a été infligé par une autre personne. Et donc là, ils enquêtent, ils ont des idées et bien sûr quel ennemi majeur des Fantastic Four pourrait être derrière tout ça, bah, je vous laisse le deviner. Mais voilà,
Ne
donc on a
serait-ce pas
droit.
un triptyque d'ennemis qu'on avait pu déjà voir ailleurs?
Ah, peut-être pas, mais en tout cas voilà,
C'est
ils
quoi cette
doivent
voix?
ils doivent
Retourne dans Nicky
revenir,
Larson, hein?
ils doivent revenir dans le temps, dans les années 50, pour aller voir la fameuse chercheure qui avait aidé en fait Watson et Crick à découvrir l'ADN et qui finalement elle n'avait pas pu recevoir le prix Nobel parce qu'elle était morte avant l'obtention du prix Nobel, qui a priori peut-être pourrait en savoir pourrait les aider. Et donc ça c'était plutôt intéressant, sauf
Mais
que
c'est
manque de
bizarre.
peau.
Je croyais que la timeline était complètement cassée de par trop de voyages dans le temps et trop de modifications à cause d'un certain Wolverine, hein, qui aurait dépassé
Ouais,
les bornes.
mais non, mais ils ont une encre spatio-temporelle qui est quelque part, donc ils arrivent, je sais pas, ils sont trop forts. Reed Richards, il est
C'est
trop
bien.
fort.
Matt Fraction a compris que l'idée de Brian Bendis, hein, de Age of Ultron, était une idée pourrie.
Ouais,
C'est
il
cool.
fait ce qu'il veut dans son coin, mais au final, il se retrouve pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis avec un Benjamin Franklin dans une situation un peu particulière. Donc ça va dans tous les sens. C'est très inventif, un bagley plutôt cool et un bon petit twist à la fin. Donc voilà, un numéro. Bah, c'est peut-être le meilleur que j'ai lu hein, des Fantastic Four. Avant, c'était sympa, mais sans plus. Et là, ça m'a redonné de l'intérêt pour la série. Donc moi, c'est un bail, ce Fantastic Four numéro 10.
Ça redonnait goût à la vie. Bon, je crois qu'on peut le dire.
Exactement, exactement.
Ça me donnait un petit peu envie d'y retourner parce que moi j'avais vraiment décroché.
Eh
À
bien,
côté de
alors.
l'inventivité qui était FF, je veux dire.
Malheureusement, moi je vais passer à quelque chose qui donne pas tellement envie d'y retourner. All New X-Men numéro 14. Alors là, l'équipe scénaristique, enfin l'équipe créative, c'est incroyable. Brian Michael Bendis est au scénario, Stuart Timonen au dessin et Wade Von Grobacher est à l'ancrage. Donc, aux surprises, c'est un petit peu comme Walking Dead tous les mois, on se demande qui va s'occuper de cette série. Alors, les dessins sont vachement bien. Bon, ça c'est la bonne partie positive. Franchement, comment s'appelle-t-il? Je viens de donner son nom et je ne sais plus. Immonen.
Stuart Timonen.
Voilà. Vraiment, pour moi, explose sur cette série. C'est vraiment son titre de la maturité. Mais alors, par contre, le scénario. Alors, je suis désolé. Autant j'étais super emballé au début. Autant là, au fait, c'est de la grosse baston. On est vraiment dans toutes les ficelles, tous les clichés possibles, imaginables. L'épisode, on l'a déjà lu 50 000 fois. Et c'est surtout, au fait, le fameux plan de Mystique, tu sais, que Bendis met en place. Enfin, vous savez d'ailleurs, puisque je ne m'adresse pas qu'à une personne. Enfin, j'espère.
Tu disais, excuse-moi, j'écoutais plus.
Oui,
Non,
voilà.
je plaisante.
Oui. Le fameux plan de Mystique qui est mis en place par Bendis depuis un certain nombre de numéros quand même, et bah au fait, voilà, quand on voit ce que c'était, bah ça tient sur un bout de ficelle. Au fait, ça servait à rien, quoi. C'était peut-être histoire de gagner du temps parce qu'il savait pas trop quoi faire avec sa série. Là, toujours est-il que tout ça pour ça, bah ça aura pas servi à grand-chose. Il y a quasiment tout un arc là qui vient de passer, qui est zappable, si je puis dire. C'est un petit peu problématique. Donc très déçu, franchement très très déçu par cet épisode et par cet arc, cette résolution. C'est vraiment un tout petit check-it, hein, vraiment à la limite du pass. Je dis check-it pour les dessins.
Ça me donne
Voilà.
vraiment pas envie d'y revenir. Moi, j'ai laissé tomber parce que ça me saoulait. Je continue à trouver que ces X-Men du passé, c'est une idée de merde, mais tu me donnes vraiment pas envie d'y retourner, donc c'est
Bah,
cool.
là, en plus, c'est même pas la question, en fait. Ça pourrait être avec les X-Men du passé, comme ça pourrait être avec Monsieur Toast. Ce serait la
Qui est
même
un très
chose.
bon personnage hein, du Golden Age qu'on a bien oublié depuis
Il est un petit peu grillé, maintenant.
le temps. Putain.
C'est pas mal. Voilà. Il reviendra souvent, Monsieur Toast. Mais avec Monsieur Toast! Oula, c'est l'un de mes médicaments. Et du coup, on va passer
Voilà, on a trouvé un nouveau personnage récurrent pour les podcasts.
Voilà.
Monsieur Toast.
Après, oh là, fou, ah, j'ai fait un malaise.
Un coup de chaud.
Avengers,
Un coup de chaud.
Avengers numéro 16, s'il te plaît, Bruno, parle-nous-en, tiens.
Oui, Avengers numéro 16. Donc on a Jonathan Hickman au scénario aidé par Nick Spencer, avec au dessin Stefano Caselli, pour cette troisième partie du prologue à Infinity. Bon, alors vous allez tous me taxer de Jonathan Hickman fan, mais bah, je kiffe cette série. J'adore Avengers. Je trouve ça
Voilà.
excellent. Il y a un potentiel de fou. Ça va dans tous les sens. Voilà, ça, j'adore. Alors, donc, on va revenir un peu sur le scénario. C'est quand même un petit peu compliqué à expliquer. Mais on a une créature qui avait été récupérée par l'AIM qui a éclos et qui est partie pour attaquer les Avengers. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas d'où elle vient. Mais elle est hyper balèze. Les Avengers se font complètement défoncer. Ils essayent de trouver une solution grâce à l'aide de Banner, mais Banner il a un peu du mal à contrôler son calme. Et en parallèle, on a des infos sur justement sur Starbrand. Starbrand qui est ce personnage qui a été créé par Hickman et qui est censé protéger la Terre d'une future menace. Et voilà, on voit un petit peu qui il est, quels sont ses pouvoirs. Et il commence à avoir des pouvoirs qui dépassent un peu toute imagination, puisque il est censé être enfermé dans la fameuse sphère de Dyson qu'avait fait Iron Man. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui pourrait du tout le bloquer. Il peut sortir quand il veut. Enfin, il est super balèze, mais pourtant, il est quand même un peu jeune pour pouvoir maîtriser ses pouvoirs.
Allez, petite question pour bien te faire chier. Tu peux nous expliquer en deux mots ce qu'est une sphère de Dyson?
Ah,
pour
mais
les
ça,
gens
c'est,
qui ne connaîtraient pas.
Je te renvoie au New Avengers numéro 3. Où il nous
explique c'est
tout.
La question salaud, ça, je sais.
Voilà, mais
ça n'a rien à voir
cas...
avec les aspirateurs, là, de voilà. La même marque.
Oh putain, oh non,
pas du
t'as
tout,
pas
pas
osé.
Du tout. Pas du tout. Mais par contre, c'est voilà, on a pas mal de scènes, comme ça, on va de différents endroits à différents endroits. On a une scène majeure où on voit Captain Universe et Manifold qui en fait se rendent compte qu'il va y avoir une invasion sur Terre, que ça va être le gros bordel. Et tu vas être content, Steve, il y a Captain Universe qui dit « We have to get bigger », donc il va falloir peut-être ajouter des membres aux Avengers.
Putain,
donc,
on aura enfin les 6 derniers.
Peut-être qu'on aura les 6 derniers dans le numéro 16. Donc voilà, et puis l'IM est vraiment intéressant entre Secret Avengers et ce qu'on a dans Avengers. On voit qu'ils ont pris du poil de la bête, hein. C'est plus du tout cette bête blessée qu'on avait avant. Là, c'est vraiment une grosse, grosse menace. Donc voilà, après les dessins de Stefano Caselli, moi j'aime beaucoup, donc voilà. Mais après, bon, c'est... Voilà, j'avoue, j'ai relu en plus Avengers, je les ai relus une deuxième fois d'affilée, et c'est vrai que c'est devenu encore plus clair qu'avant. Donc c'est une écriture à la Hickman. Il y a beaucoup de potentiel. C'est vrai. C'est mon deuxième coup de cœur de la semaine.
Voilà. Alors, je vais enchaîner. Je l'ai lu justement. Alors comme tu dis, énormément de potentiel. Dommage qu'il ne soit pas du tout exploité.
Bravo, Bonnie.
Ouais, voilà. Non, mais c'est juste que tout ce que tu as résumé là, c'est bien résumé. C'est bien ce que j'avais compris et ça ne m'intéresse pas du tout. J'arrive pas du tout à rentrer dans cette série. Et puis alors des scènes avec Hulk qui s'énerve. J'avais l'impression de revoir le film Avengers. Donc il nous colle toujours des trucs en rapport avec ce qui se passe au ciné pour que, je sais pas, le pseudo-public qui a vu les films s'intéresse à la bande dessinée, mais ça n'arrive jamais. Non, franchement, j'ai l'impression qu'il essaye de faire du Authority, mais 10 ans après, sur une franchise on sait très bien que les Avengers, c'est un petit peu le... C'est un petit peu le même principe, mais bon, je sais pas. Enfin, voilà, ça me laisse totalement froid et je suis totalement hermétique à cette série. Et à chaque fois que j'essaye de m'y remettre, rien n'y fait. Ça ne veut pas, donc je pense que je vais laisser tomber pour le moment. Et plutôt
tu liras peut-être pendant Infinity, vu que
oui.
Tu seras vraiment principal.
Bah oui, du coup, oui, peut-être. Mais en tout cas, plutôt m'attarder sur New Avengers, qui, à mon sens, a justement beaucoup plus de potentiel, même si c'est pas vraiment du Avengers, mais bon, on va pas repartir dessus. Je crois que ça va clôturer... Ah oui, alors pardon, oui, c'est un pass pour moi, et donc on a compris un méga bail pour Bruno. On va maintenant passer au TP, et c'est Steve qui s'est proposé de s'en charger, comme de coutume, donc allons-y.
Ouais, on va faire très vite. On va commencer par DC. Un vieux, vieux truc qui ressort, ça s'appelle Superman Phantom Zone, qui reprend une vieille mini qui date de 82, qui s'appelait Phantom Zone, ainsi que le DC Comics Presents 97. C'est du Steve Gerber au scénario et du Gene Colan au dessin. Donc vraiment, pour les fans de vieux trucs, ça vaut $15. Je sais pas si l'un de vous avait lu cette mini.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Le Gene Colan, c'est sympa quand même.
Ouais, pour les fans de vieux trucs, hein, les gérontophiles donc.
Voilà.
Oui, j'étais obligé de la faire. On a aussi, toujours dans le vieux qui tâche et qui suinte, surtout en période d'été, Archie Goodwin c'est encore pire que moi, du Archie Goodwin et du Walter Simonson sur Tales of the Batman, avec un gros combo de vieux numéros de Batman du Detective Comics notamment. Ça vaut $40, mais vous en avez pour votre argent avec plein de vieilles choses, mais très 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 sympa.
Ouais, là ça m'intéresse. C'est avec vraiment du Batman Grim and Gritty, l'époque où Batman redevenait vraiment Batman, quoi.
Ouais.
Un Batman.
C'était la bonne période, quoi. Voilà. Continuons avec du Batman beaucoup plus récent, puisque nous avons The Dark Knight qui sort en TP avec les épisodes 1 à 9. Donc David Finch et Paul Jenkins sont au scénario. Et puis pour accompagner la version TP, nous avons la version hardcover du deuxième volume avec les épisodes 10 à 15 ainsi que le 0. Cette fois-ci scénarisé par Greg Hurwitz avec des dessins de David Finch. Alors le premier, j'ai oublié le prix, doit être à $15, tandis que le deuxième est... Il est à 17, voilà, merci, j'ai fermé mon onglet un peu trop tôt, et le deuxième est à, l'hardcover est à 22,99.
Ouais, et d'ailleurs le deuxième est bien meilleur que le premier, scénaristiquement parlant, hein, j'entends. Greg Hurwitz fait vraiment du bon boulot.
C'est vrai que j'ai arrêté de lire pour ma part, donc je peux pas donner d'avis.
Je suis d'accord.
D'accord avec Bunny ou d'accord avec moi?
Non, avec Bunny. Hein.
Ah oui, ok. Non, mais c'était un peu confus. Terminons la partie d'essai avec la sortie de Black Orchid en TP. C'est du Neil Gaiman et du Dave McKean, une mini en 3.
Des losers.
Vieille mini de Vertigo. Non, The Loser, c'était une autre série. Voilà, c'était la petite vanne du soir, bonsoir. Ça vaut $17 pour ceux qui voudraient redécouvrir ce graphic novel. Enfin, c'est une sorte de graphic novel, finalement.
Ce personnage.
Un des premiers, je me demande si c'était pas le premier travail de Neil Gaiman chez DC après avoir été débauché par Karen Berger, avant les débuts de Sandman.
Possible. Je n'ai pas confirmation, donc je pourrais pas.
Moi, je crois que c'est ça.
On passe maintenant à la partie Marvel de nos TP avec la sortie du 7e et dernier TP de Uncanny X-Force, Final Execution, 2e bouquin, qui reprend les épisodes 30 à 35 ainsi que du matériel de Wolverine, Dangerous Games et du Deadpool 1000. C'est scénarisé par Rick Remender notamment et c'est la fin donc de cette précédente incarnation de X-Force relancée par Sam Humphries.
Ultra excellente, ultra bail.
$20. Continuons avec la fin d'un run aussi, la fin du Mighty Thor et Journey into Mystery qui étaient en crossover. Donc les deux sont publiés sous un seul et même TPB. On a le Mighty Thor 18 à 22 et Journey into Mystery 642 à 645.
Alors attends, parce que moi j'ai pas compris la même chose. J'ai cru que c'était des anciens numéros de Journey into Mystery qui faisaient le parallèle avec ces épisodes de Mighty
Thor. Pas du tout. C'est vraiment la dernière série avec Loki dans le rôle principal. Ce sont les derniers épisodes avant que Thor s'arrête pour être lancé version Thor God of Thunder et que Journey into Mystery devienne la série centrale où l'on voit Sif.
Ok, d'accord.
Voilà, ça vaut $20. Continuons avec du vieux, du très très vieux, de l'adepte de la gérondophilie finalement. Doctor Strange Hardcover Volume 6 en Marvel Masterworks avec les épisodes 10 à 22 de la série de 1974 ainsi que le premier annual et un numéro de Tomb of Dracula qui est le numéro 44. Voilà, c'est du Steven Gellart, du Gene Colan notamment. Alors c'est du Masterworks, ça vaut assez cher, ça vaut $69.99.
Ouais, c'est vraiment le gros bouquin de la sélection. Ouais.
Mais pour les fans de vieux matériel et de très très bon matériel qui est même totalement dans le mystique. Continuons avec Wolverine Max qui sort en TP, scénarisé par Jason Starz avec les 5 premiers numéros de la série. Pour ceux qui voudraient découvrir cette nouvelle série Max, ça vaut $17.99. Et puis quelques gros bouquins. Deadpool par Daniel Way, Complete Collection TPB, qui va reprendre les Wolverine Origins 21 à 25, les 12 premiers numéros de la version Daniel Way de Deadpool, ainsi que les épisodes Thunderbolt 130-131, puisqu'ils étaient en crossover avec Deadpool à ce moment-là.
Voilà.
Ça vaut $35. Si vous aimez Deadpool, vous avez envie de tester la version Daniel Way, qui reprenait donc au début de Secret Invasion, c'est vraiment le bon moyen de tester. C'est pas si cher que ça, vu ce qu'il y a dedans.
Ouais, et malgré tout, vous lirez ça en 20 minutes.
Oh non, quand même.
Je plaisante, je plaisante.
Quand même. Non, le début était pas mal. Moi, j'ai lâché par la suite. Ça m'a un peu gonflé à la longue. Mais le début était vraiment pas mal. Et enfin, le foutage de gueule du mois, voire même de l'année peut-être. Pour $30, voici les Avengers Assemble par Brian Michael Bendis avec les 8 épisodes. Donc pour $30, 8 épisodes. Ah, peut-être mieux les acheter en single hein, à ce prix-là.
Ils sont pas bien dans leur tête. Hein. Voilà. Vraiment, faut arrêter quoi.
Ça a beau être du Bendis et du Bagley.
Pas content, Florent.
Mais surtout qu'en plus, honnêtement, ce premier arc, moi je l'ai trouvé pas bon, qui est la réintroduction de Star-Lord et des Guardians of the Galaxy, version Bendis, version... Donc je n'explique rien, ils sont revenus. Et de Thanos aussi, j'avais oublié, pardon. évidemment.
Ah, putain, mais réintroduction surtout du Zodiac, c'était terrible.
Ouais, alors sa version du Zodiac, moi j'ai pas trouvé si mal que ça, à la rigueur. C'est peut-être la seule chose qui m'a plu, on va dire. Mais...
En tout cas, là, je disais lire en 20 minutes. Là, tu peux le lire en 20 minutes en plus, c'est ça
le
pire.
Honnêtement, c'est un peu le problème, quoi. On a un Star-Lord et un Thanos qui reviennent du camp de servers dans lequel ils étaient, reliser la fin du run d'Abnett et Lanning sur l'univers cosmique sans explication. On n'en a toujours pas plus d'un an plus tard, et je pense qu'on peut se les carrer bien profond avec les conséquences de Age of Ultron. Voilà.
Alors, les conséquences qui pour peut votre carrer cul. Des trucs bien profonds, justement.
Chez
Dark Horse, moi je te donne une transition.
Sauf que je ne suis pas chez Dark Horse, mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors chez. Je suis pas chez Dark Horse, moi.
Ah bon ?
J'en ai oublié un. J'en avais oublié un dans ma liste. Et oui, forcément. Flou, tu allais dire quelque chose le temps que mon truc se charge ?
Non, rien, j'ai dit de grosses conséquences aussi.
C'est dégueulasse,
pour son
ce que tu viens de dire.
Voilà. Je rebondissais à la blague. C'était
chez
nul.
Dark Horse, celui qui aime carrer des choses bien profondes, c'est bien Conan, qui aime carrer sa grosse épée à deux mains. Je vais essayer de pas être trop crado pour éviter d'avoir un tag trop explicite, quoique c'est trop tard.
Oui, puis tu viens de dire le temps que mon truc se charge, j'ai trouvé ça particulièrement.
C'est les épisodes 7 à 12 de la série Conan the Barbarian par Brian Wood avec des dessins de Becky Cloonan pour $25. C'est un petit peu cher, mais c'est du hardcover. Donc, bon, on peut excuser le prix légèrement cher. Continuons avec du IDW. La mini-série dont Corwin nous avait parlé il y a de ça quelques temps, Rocketeer Hollywood Horror, qui est scénarisée par Roger Langridge, notamment avec des dessins de Walter Simonson, si je ne me trompe pas. Les covers de Walter Simonson et des dessins de Jay Bone, qui reprenait toute la mini parue chez IDW, $21.99. Chez Image maintenant, nous avons, puisque j'ai envie de dire Image cette semaine, nous avons Revival tome 2 avec les épisodes 6 à 11, ça vaut $15, toujours une série de Tim Seeley avec des dessins de Mike Norton.
Excellente série, évidemment.
J'allais le dire, donc voilà. Et enfin, pour terminer notre partie Image, de Joe Kittinge et Ross Campbell, la fin de la série Glory. Les épisodes 29 à 34, hein, Glory qui avait été relancé comme certaines autres séries anciennes propriétés, notamment de Rob Liefeld, qui avait été relancé ces derniers temps. Et voilà, la conclusion de ce titre dont Sam n'a pas tari d'éloges. Tout le temps qu'il a pu la lire en disant que c'était une des meilleures choses qu'il avait pu lire, bourré d'inventivité. Ça vaut $15.
J'irai acheter
un. Tu confirmes aussi, ouais. Ok. Donc voilà, ça fait 2 TPB. Alors la série est terminée. Maintenant, vous avez les épisodes 29 à 34. Donc en 2 TPB, vous pouvez avoir cette version totalement différente et pas besoin d'avoir lu les premiers épisodes qui sont sortis dans les années 90. Voilà, c'est tout pour les TP. J'en ai fini.
Bravo. Bah, Bunny.
Et donc, Bunny s'est absenté.
Allez,
c'est
présentateur. Allez, c'est vrai que c'est moi le présentateur. Oh, j'avais oublié.
On vient de le dire. Pour la peine, conclu en, je sais pas moi, en perforas.
Non, moi j'ai envie de dire conclu en breton. Tiens.
Ouais, ou alors.
Va te faire foutre, je sais pas si c'est breton ça. Mais... c'est gay avec le cœur, messieurs.
Non, mais ça veut dire que tu veux m'épouser en breton, je crois.
Ouais. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que cette émission vous a plu. Même si j'étais un petit peu flagada. On ne dit pas assez ce terme-là.
Oh, putain.
Oh, mon dieu. Vite.
Jetez-lui des pierres virtuelles.
Ouais. Alors vous pouvez nous retrouver sur tous les agrégateurs de podcasts pour écouter les anciens numéros et sur Facebook, sur Twitter, sur le site. Vous pouvez laisser des commentaires à l'adresse @podcast.comiccity. C'est pas ça du tout. Je les connais toujours pas après tant d'années.
@comiccity.fr.
Exactement. Voilà.
Et le Twitter @comiccity.
D'accord. Est-ce qu'on a tout dit?
Bien, je crois que c'est bon, oui.
Je pense que c'est bon.
À moins que tu aurais un mot de la fin, Benny.
Non, là, j'en ai pas préparé, donc voilà. Mais je me dis qu'on n'a pas fait le numéro de la semaine. Nous allons donc recommencer tout depuis le début.
153, comme ça, de mémoire, j'en ai pas là.
Non, mais faut qu'on les fasse depuis qu'on a arrêté de les faire. Pour tous les numéros précédents. Donc je vous propose de faire d'enregistrer un spécial numéro de la semaine, là, tout de suite, maintenant, en fait.
On fera ça en deux parties.
Oui, c'est dit, d'accord, ok. Bon, écoutez, retrouvez-nous bientôt pour le spécial numéro de la semaine en deux parties. Non,
ouais, ce sera Mister Toast.
Bon, je pense qu'on va même couper là maintenant. Allez, tout le monde sort.
Allez.
Fait le plateau.
Allez, à la semaine prochaine.
Oui, ciao à tous.
Ciao à tous.
À bientôt.
Salut.